Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes the Podcast. Cette semaine, je suis avec Mathieu Gallet.
Bonjour Stéphane.
Salut Mathieu. Et on va parler de...
Desperado.
Desperado de Robert Rodriguez.
Lui-même.
Alors, c'est ton choix.
Exactement. Voilà. C'est moi qui l'ai suggéré.
Voilà, tu l'as suggéré. C'est plutôt un choix intéressant, effectivement, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé de Robert Rodriguez, déjà dans l'absolu, chez Capture Mag, je crois. Si, non, même pas, je crois pas.
Non, je sais pas. Il y avait voilà. Gun, peut-être, non, je sais pas.
Non, même non, pas. Enfin, avec Battle Angel.
Battle Angel, Alita.
Alita. Et puis, mais c'est vrai que c'est un cinéaste qui a un petit peu tombé en désuétude pour pas mal de monde, j'ai l'impression. Mais là, effectivement, avec Desperado, on revient à ses débuts. Alors, avant Desperado, et avant même de pitcher Desperado, puisque tu vas nous pitcher Desperado, même si ça va aller très vite, je pense, normalement,
oui.
Faut peut-être recontextualiser et parler de El Mariachi.
Voilà. Alors, tu veux que je fasse ?
Oui, je t'en prie.
Donc, El Mariachi, c'est le premier film de Robert Rodriguez, et donc qui est, en fait, essentiellement resté un peu dans l'histoire. Je mets des gros guillemets à l'histoire, mais parce que c'est donc un film qu'il a réalisé à l'époque pour $7,000.
Ce qui a beaucoup été contesté.
Oui, on dit qu'apparemment il y a quand même eu le film a été distribué par Sony, par Columbia à l'époque, et qu'apparemment il aurait eu un influx d'argent de Columbia pour l'aider à finir le film. Mais bon, lui il a toujours dit, et puis c'est aussi une façon, je pense, de bâtir un peu sa propre légende. Il avait même écrit un bouquin d'ailleurs pour relater son expérience de tournage. Mais voilà, donc soi-disant il l'aurait fait avec $7,000, donc avec une équipe très réduite, puisque quand on revoit le générique, c'est les mêmes noms qui reviennent quasiment à tous les postes. Les acteurs étaient aussi Clapman, assistant réalisateur et tout ça. Lui-même dit que donc pour réunir les $7,000, il a fait des trucs comme il participait à des expériences, enfin des trucs scientifiques.
Ouais, il se faisait shooter des.
Il faisait cobaye.
Il
réunissait l'argent en allant faire cobaye pour des trucs scientifiques. Et
c'est là qu'il a rencontré d'ailleurs une partie de l'équipe, hein,
oui.
Je crois, d'un acteur notamment.
Ouais, possiblement. Ouais. Ouais. Voilà, et donc le film. Et bon, après voilà, donc moi je l'ai revu avant de faire l'épisode. Bon, c'est vraiment un tout petit film qui est déjà pas très long, qui fait vraiment son budget rikiki, parce que il y a trois décors, ça tourne beaucoup en rond, et puis c'est une histoire d'erreur d'identité en fait, sur ce mariachi qui arrive en ville pour essayer de trouver du boulot, qui est pris pour un tueur, qui c'est un tueur évadé, qui se retrouve pris en milieu d'une guerre de cartel et tout. Bon, c'est vraiment un tout petit film, mais voilà, mais qui avait à l'époque suffisamment impressionné pour que Rodriguez, pour servir de rampe de lancement à la carrière de Rodriguez derrière. Et donc derrière, il va faire, dans un premier temps...
C'est impressionné, précisons-le quand même, parce qu'effectivement, à cette époque-là, au début des années 90, en 92-93, il y avait une émergence du cinéma indépendant, hollywoodien.
Ouais, américain.
Américain, mais bon, hollywoodien en vrai,
oui.
Parce que vraiment, il y a beaucoup
de
choses...
Oui, là, c'est un cinéma indépendant au sein des studios.
Voilà, c'est ça, parce que d'un seul coup, t'as quand même Sony qui récupère ça, t'as Miramax qui appartenait à Disney, enfin bref, donc il y a quand même beaucoup de choses comme ça, et c'était... Chacun avait son petit studio indépendant, et dans cette émergence-là, le fait que lui puisse faire un film de ce budget-là, qui, aux yeux des gens, tient la route, si tu veux, pour pouvoir, et ce qui lance sa carrière, en fait, ça avait impressionné. Donc, c'est pour ça qu'il se lance après dans Desperado.
Alors, avant de faire Desperado, il fait un téléfilm pour Showtime, qui faisait partie d'une anthologie qui s'appelait Rebel Highway, je crois, c'était une volonté de faire une sorte de revival des films de jeunes des années 50, où ils étaient allés chercher des réalisateurs comme Alan Arkush, Joe Dante en avait fait un, je crois, et lui était le seul réalisateur débutant, d'ailleurs, du crew de réalisateurs qu'ils avaient, du pool de réalisateurs qu'ils avaient réunis. Et donc il a fait ce truc qui s'appelait Road Racers avec David Arquette et Salma Hayek, c'est la rencontre avec Salma Hayek. Et donc derrière, voilà, il va faire, il décide donc de donner une suite à son El Mariachi en faisant donc Desperado.
Ouais. Alors Desperado, il faut pitcher.
Oui.
Là, t'as un petit peu contextualisé le premier, t'as un petit peu pitché le premier, c'est la suite.
Alors c'est la suite directe, donc avec un changement d'acteur, puisque donc on passe de Carlos Gallardo qui jouait le rôle dans le premier à Antonio Banderas, mais c'est le même personnage. Mm-hmm. Et donc le mariachi qui donc dans ce film là est à la poursuite des commanditaires, enfin des chefs du gangster qui à la fin du premier tuait la femme qu'il aime. Voilà. Donc il cherche à trouver, il va de ville en ville et il cherche à trouver Butcho, le chef de gang, pour le tuer et venger la mort de la femme qu'il aime et le fait que lui il s'est fait tirer dans la main aussi. Et voilà, et donc il se balade avec le truc iconique du film qui est la guitare, le fameux étui à guitare bourré d'armes en fait quoi. Et il va de ville en ville et de pour essayer de trouver le truc, et évidemment il est toujours les emmerdes, il se trouve toujours obligé de sortir les flingues à un moment. Et donc l'action du film se passe dans une seule ville où il va donc essayer de pister ce Butcho et rencontrer une nouvelle femme en la personne de Carolina, qui est la libraire du coin, qui est jouée par Salma Hayek. Voilà. Et en gros, le film s'articule autour de la recherche par le mariachi de Butcho et avec toutes les fusillades qu'il va avoir le long du chemin. Quoi, voilà.
Alors,
ça se résume à ça. Hein.
Ouais, c'est le pitch, effectivement, ça se résume à ça pour un film qui fait quand même 1h50, ce qui est quand même un petit peu, moi, à mon sens, un peu problématique aujourd'hui. Alors, pour peut-être contextualiser, pour moi, en tout cas, la découverte de Desperado, moi, j'avais des attentes, en fait, quand j'étais jeune, sur, effectivement, un réalisateur comme Rodriguez. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'étais pas forcément impressionné par El Mariachi, je trouvais ça sympathique, tu vois, mais je me disais, bon, si le mec, il a cette volonté, et avec, effectivement, toute la légende dont tu parles autour, si tu veux, c'est un tant soit peu vrai, ça peut effectivement donner lieu à quelqu'un d'intéressant, d'un peu franc-tireur, etc. etc. C'est quelqu'un qui a vite été récupéré dans ce système-là, dans une famille qui serait celle de Quentin Tarantino, disons, admettons, hein, comme il avait une petite famille à l'époque avec pas mal de gens qui, d'ailleurs, Rodriguez, c'est plus ou moins le seul qui a fait carrière. En
oui,
vrai.
Parce qu'après, il y avait des mecs comme Alison Anders ou Alexander, je sais plus.
Oui, Alexander Rockwell. Voilà, mais ça, eux, c'est encore autre chose parce que c'est vraiment, ils faisaient pas le même genre de cinéma, oui. Disons, oui. En fait. Ouais, c'était pas les mêmes histoires, quoi. Ouais. Mais les deux, en fait, font du cinéma de genre, effectivement. Et l'idée, c'est qu'ils auraient, un terreau. Similaire, si tu veux, d'influence, quoi. C'est-à-dire que le coup de la guitare dont tu parles, c'est un trope de western spaghetti, hein. C'est le cercueil dans Django, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc ils se reconnaissent là-dessus. D'ailleurs, Tarantino fait une apparition dans Desperado remarquée à l'époque, hein. Il y a aussi
Danny Trejo.
Danny Trejo. Alors Danny Trejo, ça c'est plus du côté de Rodriguez qu'on va reconnaître. Et d'ailleurs, il est assez remarquable aussi là, dans ce film-là. Enfin, moi, je me rappelle que c'était la première fois que je le remarquais vraiment, même s'il avait fait des petits rôles un peu partout à droite à gauche.
Oui,
et je pensais surtout à Steve Buscemi, en fait, qui est l'acteur de Reservoir Dogs, qui se retrouve là-dedans.
De toute façon, je pense qu'on peut dire que le film marque, c'est un peu le début d'une famille, de la famille de cinéma de Rodriguez, puisque on va commencer à voir dans ce film-là des acteurs et des techniciens qui vont l'accompagner au moins pour une grosse partie de sa carrière, puisque donc on a parlé de Tarantino, on a parlé de Danny Trejo, Banderas a fait plusieurs films avec lui aussi, Salma Hayek, et puis on a dans des seconds rôles des mecs comme Cheech Marin, qui va beaucoup revenir après, Tito Larriva aussi du groupe Tito et Tarantula, et derrière la caméra un mec comme Guillermo Navarro qui était aussi qui commençait aussi à prendre du galon et qui va accompagner Rodriguez sur quand même plusieurs films derrière, puisqu'il va rester son chef au pâtisserie à peu près jusqu'à Spy Kids, je crois.
Ouais.
Après, ils ont pu travailler ensemble.
Quand il y a de la pellicule, quoi.
Voilà.
Parce que ça devient le truc. Alors, il faut aussi préciser que, ça fait partie des premiers films donc, de Rodriguez, et que ça fait partie des premiers films qui sont tournés, forcément par la force des choses dans l'époque, en pellicule.
Oui.
Il y a quand même un gros tournant dans la carrière de Rodriguez, c'est quand il découvre le numérique, et d'ailleurs, il découvre le numérique avec la suite d'Desperado.
Ouais.
Dont on ne parlera pas forcément là, enfin peut-être un petit peu pour contextualiser à la fin, quoi. Alors, Desperado, peut-être pour resituer vite fait, parce que là, tu as pitché le film, il y a l'influence du Western Spaghetti, influence aussi quand même du cinéma de John Woo.
Ah bah complètement.
Du cinéma de Hong Kong, avec la volonté de singer les scènes d'action Guns Akimbo,
et puis les poses iconiques, quoi.
Oui, voilà.
Il y a une volonté dans le film de travailler beaucoup la pose et notamment des... il fait souvent finir ses personnages dans des poses figées qui se veulent très iconiques, tu vois, notamment t'as le gunfight de fin où à un moment Banderas se retrouve sur le capot d'une voiture à shooter les deux flingues en étant complètement entortillé sur lui-même, tu vois, c'est
c'est ridicule, hein, moi je trouve ça ridicule dans Desperado, justement, c'est à dire que c'est assez marrant parce que t'as plus, en fait, alors tu me diras, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement reprocher à Choi Yun-Fat aussi si on part par là, mais il y avait quand même cette volonté, je trouve, de se la péter un peu dans le film, tu vois. Mais du coup, en fait, ces passages-là, ces trucs où tu les vois en train de faire des coups de feu comme ça, comme si c'était des rythmes, des trucs de guitare, tu vois, etc., etc., c'est très bizarre, en fait, je trouve, quand tu revois le film comme
ça. Oui, il y a un moment, notamment un moment dans la scène du bar où Banderas tire en mettant à chaque fois en projetant le flingue en avant, en fait, avec
comme s'il mettait un riff un truc de guitare voilà. Enfin, tu sens que c'est le geste, en fait, vient de là parce que comme c'est un guitariste et tout ça. Mais voilà. Alors, c'est pas, en fait, bon, ça, c'est la pose, c'est le truc, c'est une chose, quoi. Après, il y a la façon dont c'est filmé. C'est-à-dire que, en fait, comme Rodriguez avait mis en place, alors je pense que là, on peut parler de l'apport de Guillermo Navarro, en fait, sur le film, parce que, mine de rien, donc Navarro, c'est aussi le chef opérateur de Guillermo del Toro,
sur une partie de son
cinéma. Ouais. Et le truc qui est intéressant, c'est que tu sens que, pour le coup, Navarro lui a donné, en fait, quand même quelques petites règles de poursuivre le découpage, quoi. Parce que fondamentalement, il y a quand même une grosse différence entre El Mariachi et Desperado. Et ce qui est très étonnant,
et il y en aura aussi une d'ailleurs très importante entre Desperado et sa suite, où là pour le coup Rodriguez fait tout, en fait, il fait le montage, il fait la photo aussi.
Et c'est ça. Et le truc, c'est que du coup, d'un seul coup, on revient, je trouve, avec Desperado 2, hein, il était une fois au Mexique, au découpage d'El Mariachi, à plusieurs moments, et vraiment le découpage à la démerde. C'est-à-dire que, en gros, cette façon de multiplier les axes, y compris ceux qui sont finalement pas terribles, hein, en vrai, pour malgré tout, en fait, donner un espèce de dynamisme à l'action. Ça pouvait fonctionner à l'époque, quand tu tournes en pellicule, quoi, comme c'est le cas d'El Mariachi, mais c'est vrai qu'en fait, en numérique, c'est beaucoup moins impressionnant, et pas tant, en fait, à cause du format en soi. Hein, c'est juste qu'en fait tu te rends compte que normalement tu peux tourner plus, tu vois.
Oui.
Donc en fait tu pourrais justement un peu mieux couvrir et avoir plus le temps de couvrir. Ce qui ne faisait pas forcément, en fait, avec Desperado 2.
T'as l'impression effectivement qu'il reste dans un espèce de système D, quoi, alors que c'était beaucoup plus tenu sur Desperado.
Alors de mémoire, en fait, pour moi, Desperado échappait à cette problématique de montage quand même assez foireuse, je trouvais, tu vois, et pas toujours, finalement, en revoyant le film.
C'est un peu inégal à ce niveau-là. Moi, j'ai revu le film aussi, que j'avais pas revu depuis, parce que c'est un film que j'ai beaucoup vu à l'époque, parce que moi, je l'ai vu en salle, j'avais 13 ans quand le film est sorti. Et pour moi, c'est une grosse attente à l'époque, hein, je me souviens. J'avais pas vu El Mariachi, mais j'avais vu dans les magazines les images de Banderas avec deux flingues. Alors moi, je connaissais déjà le Jonu à cette époque-là, et donc j'y allais avec la promesse de voir dans un film occidental les trucs que je kiffais dans le cinéma de John Woo. Et à l'époque, pour moi, la promesse était tenue, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu quand Banderas sort les deux guns de ses flingues et tout ça, j'étais ah putain, c'est Choi Yun-Fat, quoi. Voilà, bon. Alors je tempère un peu, évidemment, la vie maintenant, mais je trouve que quand même, je trouve encore, en ayant revu le film, que ça se tient. Alors effectivement, il reste dans un découpage qui est assez simple, dans le côté c'est très souvent de l'action-réaction, c'est-à-dire que tu vas avoir le plan cadré un peu serré sur Banderas qui shoot, et derrière tu vas avoir le plan du mec qui décolle, quoi, ou qui se prend les impacts de balles. Mais il arrive quand même à dynamiser un peu des trucs, tu vois. De temps en temps, il met quand même des plans un peu plus généraux, notamment, bah, je pense, la scène où Banderas grimpe sur le bar et évolue sur le bar en shootant les mecs qui arrivent devant et derrière et tout. C'est un peu plus punchy, quoi. Et même dans le truc où même quand il reste dans cette logique de d'action-réaction, tu as des trucs assez fun quand le mec saute depuis le bar sur Banderas, qu'il le réceptionne avec les pieds et que tu vois la plongée, enfin c'est en contre-plongée sur le mec qui est en train de repartir en arrière et
le plan est un peu dynamique,
de se faire plomber, tout ça. T'as des moments où j'ai l'impression aussi que on est alors je sais pas si c'était conscient de sa part, mais t'as une émergence, on était à l'émergence du FPS, et t'as ce plan. Ouais. T'as ces plans dans la scène où elle est en train de, après la scène d'amour, où Salma Hayek est en train de jouer de la guitare, les yeux fermés, et lui il est devant elle, et on voit il y a les mecs qui arrivent pour les plomber, et lui il essaye de les viser sans la déranger, et tu vois des plans où c'est littéralement du plan FPS avec en amorce la main de Banderas qui tient le flingue et est en train de viser les mecs qui arrivent derrière les trucs, quoi.
Bon, après ça c'est un trope que tu voyais aussi dans le cinéma des années 40-50, hein, donc ouais. En fait le truc c'est que tout se rejoint, hein, oui. Mais en fait le le truc, enfin le éventuellement ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle d'une interview à l'époque qui m'avait un petit peu choqué déjà de la part de Rodriguez, je crois que c'est dans Impact, hein. Il disait en fait, de toute façon le cinéma aujourd'hui en fait on le regarde à travers les laserdiscs. Bon, ce qui déjà était très quand même
assez présomptueux.
Ouais, puis spécifique surtout, oui. Parce que tout le monde n'était pas équipé, et donc en fait en chapitrage, c'est-à-dire le DVD n'existait pas.
Ouais.
Et en gros, sa théorie, c'était de toute façon, maintenant le cinéma, ce n'est pas un tout, c'est des séquences. Un film n'est pas un tout, c'est des séquences. Et en gros, ce que ça m'a, en fait, en ayant ça en tête. Et en revoyant le film, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement comme ça qu'il a pensé le film. C'est-à-dire que t'as pas mal de séquences. Là, par exemple, on parlait de certains moments d'action sympathiques. Moi, je pense que le meilleur moment, en fait, du film, c'est littéralement le début.
Ouais.
Même si c'est un peu, ça traîne un petit peu en longueur, pour être tout à fait honnête, c'est Buscemi qui arrive dans un bar, qui demande une bière pourrie, enfin dégueulasse, qui ressemble à de la pisse, quoi, qui se met à raconter, en fait, l'histoire du Desperado, quoi, du mariachi. Et qui et en fait c'est entrecoupé des moments mythologisés en fait de Banderas quoi qui est en train de flinguer les mecs dans un bar.
C'est vraiment littéralement mythologisé puisque il le filme constamment avec le visage constamment dissimulé dans la pénombre avec des angles parce que Buscemi dit c'est le plus grand mexicain que j'ai jamais vu et il le filme littéralement en contre-plongée pour il cherche les angles pour vraiment jouer sur la taille de Banderas qui est pas je crois un mec pas forcément super grand non plus à la base.
Et avec quelques petits moments sympathiques où tu vois le mec, il ouvre son étui à guitare, t'as le flingue qui vole.
Le gros
comme
gun
ça,
qui va, ouais. Il l'attrape à la volée, il dégomme.
Voilà, il y a deux, trois trucs comme ça sympas.
L'utilisation des câbles pour faire vraiment décoller les gars et les faire s'écraser dans le décor et tout ça.
C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa qu'il arrive un petit peu à jouer avec le truc, mais t'as l'impression que presque tout a été donné à ce moment-là parce que finalement, fondamentalement, tu peux en prendre cette scène, la mettre à part. À l'ère d'internet, il n'y avait pas internet à l'époque, en tout cas pas à ce point-là, tu vois. Regarder les 7 premières minutes de Desperado, les gens, ils allaient le voir.
Je pense qu'effectivement, cette séquence-là est pensée comme un mini-film. Quoi. De toute façon, c'est l'intro du film. Donc, c'est littéralement la séquence pré-générique.
La séquence de Tarantino, la blague de Tarantino, oui. qui est une blague à la con, qui devait raconter dans des soirées, et puis en fait, il s'amuse à la mettre là-dedans. C'est 5 minutes de perdu, hein. Après, en vrai, quand tu regardes le truc...
C'est-à-dire qu'effectivement, narrativement, ça n'apporte rien. Mais le fait est qu'on s'en souvient encore.
Mais c'est parce que c'est Tarantino et que ce Tarantino représentait quand même quelque chose à cette époque-là. Il venait de gagner la Palme d'Or avec Pulp Fiction, etc., etc. Donc en fait, c'était un saut, entre guillemets, de qualité d'avoir Tarantino, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui dans son film, mais parce qu'il en a fait 15 depuis des apparitions.
Et il ne s'est pas amélioré en tant qu'acteur.
Et il se piquait. Il se piquait surtout d'être acteur aussi à cette époque-là, vraiment. C'est-à-dire il aimait en fait montrer sa trogne dans les films, quoi. Et il y a ces films qui sont pas sortis en France comme Destiny Turns the Radio, qui est une catastrophe, hein, le film. Mais,
tu les as vus, toi.
Ouais, je l'ai vu, ça. Bah, évidemment, parce que je me disais, je cherchais un peu à savoir ce qui se faisait autour de lui, quoi. Puisque Tarantino, pour le coup, c'est vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup.
Oui, et puis il y avait la fameuse apparition dans Sleep With Me aussi.
Oui, qui est c'était très connu parce qu'il parle de Top Gun en fait. Et c'est d'ailleurs toute la promo du film a été faite autour de ça aussi.
Bah, c'est-à-dire, la preuve, c'est que moi j'ai jamais vu le film et je connais la scène, quoi.
Ouais, voilà. Mais alors, le truc en fait, c'est que c'est pas que ces scènes-là. Par exemple, même dans les bons moments, les bons petits moments, moi je trouve, de Desperado, par exemple, il y a ce moment où l'idée est sympa parce que, après l'incarnage, Banderas se rend compte qu'il reste encore un mec debout. Et en fait, les mecs, ils ont plus de balles.
Voilà.
Et donc, ils commencent à chercher chacun des flingues. Ils se toisent comme ça. Et en fait, du coup, il se rate. C'est qu'à chaque fois, il soulève un flingue chacun, il y a pas de balles.
C'est ce que j'ai noté aussi. J'ai noté cette séquence-là comme vraiment cool.
Et en fait, du coup, le truc, si tu veux, c'est que ce qui est plutôt marrant, c'est d'avoir en fait des petits moments comme ça où tu te dis, ça, c'est sympa. Tu peux pas dire que c'est pas sympa. Mais en fait, l'addition de tout ne fait fondamentalement pas un film, c'est ça mon problème aujourd'hui. C'est-à-dire que je me rappelle déjà que m'être dit à l'époque, ça tire un peu la ligne, tu vois, mais c'est sympa. Et là aujourd'hui, j'ai plus l'impression que ça tire à la ligne qu'autre chose. Et avec, si tu veux, tu vois, quand tu affines un petit peu ton regard, tu vois finalement, fondamentalement, le mec il se repose principalement sur les raccords dans l'axe. Ce qui était ingénieux, si tu veux, mais c'est un peu trop tout le temps le cas, quoi.
Ouais.
Et c'est là où je suis resté un petit peu sur ma faim. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Desperado. Je l'avais pas revu, je pense, avant de revoir. La dernière fois, ça devait être avant de revoir Il était une fois au Mexique, quoi.
Moi, je pense que ça remontait encore plus longtemps que ça, tu vois, pour le coup. Mais pour le coup, je te dis, moi, j'avais encore bien le film en tête, puisque c'est un film que j'ai beaucoup vu à l'époque de sortie. J'avais la VHS et tout ça, donc voilà. Et je vais dire que pour le coup, en le revoyant, je pense que t'as vraiment le bloc des 45 premières minutes, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l'arrivée l'arrivée de Salma Hayek, en fait, qui est vraiment, vraiment très plaisant à voir. J'étais vraiment, vraiment bien dans le film et tout, en me disant, voilà, en gros, je partage à peu près ce que tu disais sur le fait qu'effectivement, la scène d'intro est vraiment, vraiment fun à suivre. Et puis, la progression narrative est quand même plutôt relativement efficace, puisque il y a pas vraiment de temps mort, on enchaîne assez vite sur la scène dans le bar et tout, et je trouve que la scène dans le bar se termine vraiment bien. T'as une vraie bonne utilisation de la musique avec le morceau Strange Face of Love de Tito et Lariva qui se termine justement avec le moment où il sort après le carnage, après avoir buté le dernier mec, et la musique monte derrière et justement il y a Tito Lariva qui est en train de le suivre pour le buter, et ça se termine où en fait carrément il finit par noyer tous les, y a plus de bruitage et tout, et c'est là que Salma Hayek arrive et tout, il la protège et il se voilà. Donc ça va. Après je trouve que passé ce point-là, donc au moment où Salma Hayek arrive dans l'intrigue, ça commence à devenir effectivement plus problématique puisque ça fait vraiment du surplace.
Mais ce qui est marrant, ce que tu dis, parce que c'est le moment où l'intrigue est censée évoluer.
Et oui, et c'est vrai que c'est le problème du film. C'est-à-dire que tu sens qu'il a un peu de... Je pense qu'il y a un vrai problème aussi au niveau du fait de garder l'antagoniste séparé en fait du héros aussi longtemps. Alors, il veut le faire, il le fait parce qu'il veut faire une révélation. Puisque donc, bon, on va spoiler, hein, le film est suffisamment vieux pour ça, puisqu'en fait on se rend compte à la fin que donc, le méchant qui est joué par Joaquim de Almeida est en fait le frère, est censé être le frère de Banderas.
Oui, mais donc, ça c'est une révélation très tardive.
C'est très tardive, c'est-à-dire que t'as le moment où après l'incendie de la librairie, il le voit pour la première fois et il n'arrive pas à le tuer. Donc on comprend pas pourquoi, et il est révélé ensuite que c'est son frère.
Ouais, bon. mais ça prend 40 minutes déjà avant que ça soit révélé, quoi. Ouais. Et puis surtout, t'as envie de dire si c'est ton seul plot twist, tu vois, enfin ça valait peut-être pas le coup de le garder jusqu'à la fin, quoi.
Donc derrière, effectivement, t'as tout le truc où il y a l'idée où il a l'amitié avec le gamin à qui il apprend la guitare, et en fait tu te rends compte que la ville entière est sous la coupe de Bucho, y compris la librairie où il sert de tous les commerces de la ville pour faire du trafic de drogue et tout ça. Voilà, et puis alors il essaie de dynamiser un peu le truc parce qu'il te montre aussi, t'as toute une partie du film qui se passe du côté des méchants, où il essaie de faire un truc un peu picaresque. Il y a des moments où ça marche. Moi j'aime bien, il y a une petite utilisation notamment de l'ironie dramatique autour du personnage de Danny Trejo en fait.
Ouais.
Dont on se rend compte qu'en fait il est envoyé, donc c'est un mec qui est. Danny Trejo qui effectivement est très remarqué dans le film parce qu'il déjà il était très fin à l'époque en fait. On a toujours maintenant l'image de Danny Trejo comme une masse, mais il était encore assez élancé.
Bon, Danny Trejo c'est un mec qui est tout petit. Hein. Oui. Il faut le dire, hein. Il est impressionnant parce qu'il a une vraie gueule, il a un charisme assez dingue. C'est évidemment de tout. Quand tu regardes le truc, et surtout avec le recul, c'est les prémices de Machete. Hein, c'est un personnage avec des lames.
Qui utilise des couteaux, ouais, des couteaux lancés. Ouais,
qui ne parle pas, très efficace dans son fonctionnement. Quoi. Il déblaye quasiment, une bagnole entière d'hommes de main. Quoi. Et la scène en soi est plutôt sympathique, si tu veux, parce que c'est Danny Trejo, parce que d'un seul coup, c'est un acteur que tu n'avais pas vraiment découvert à cette époque-là, et ça fait plaisir. De voir ça. Moi, je sais que ça fait partie des vrais plaisirs du film, mais encore une fois, dans un fonctionnement de scénette.
Ouais.
C'est-à-dire que tu pourrais voir la scène sur YouTube et ça fonctionne tout seul, tu vois.
Et je parlais de l'ironie dramatique, puisque t'as le truc où les hommes de main de Bucho, donc le but, et puis après, on voit la scène où il ramène le cadavre et l'autre, il est au téléphone avec l'humanitaire et il dit: ah oui, alors il ressemble à quoi le gars que vous avez envoyé? Ah oui, il a un tatouage de femme sur la poitrine et tu vois les mecs en train de déblayer le cadavre et ça. Ouais, on fera attention, on y fera attention et tout ça.
Et c'est presque dommage parce que tu te dis: putain, moi j'aurais préféré que soit Danny Trejo le méchant du film, si tu veux, que très sympa, hein, Joaquim del Media, mais bon, qui voilà, tu vois,
et qui effectivement a pas grand chose à faire dans le film, quoi, puisqu'il reste derrière, il reste dans son enceinte. Alors bon, il y a 2-3 moments rigolos, genre il se met à buter son homme de main parce qu'il est pas content que les autres n'arrivent pas à déblayer le mariachi, quoi, et tout.
Voilà, mais alors il y a ça, et puis il y a je trouve en fait dans ces scènes là en fait un peu un manque d'ampleur, c'est-à-dire que le mec il est quand même censé être très riche, donc il a une villa et tout ça, etc., etc., puis tu le vois pas vraiment en fait.
Tu vois qu'il a la bagnole, c'est la bagnole.
Ouais,
blindée,
bon, ça il l'utilise, ouais. Ça c'est clair qu'il te montre qu'il a une bagnole blindée, mais bon, enfin voilà, ça va pas très loin, quoi. Donc il y a aussi ce truc de, je trouve que en fait le à la revoyure, le souci un petit peu du film, c'est que malgré le fait que effectivement on passe d'El Mariachi à ça et que d'un seul coup il y a, c'est un film, quoi, vraiment, tu vois, il y a quand même ce truc où tu te dis, en dehors de ce détail contextuel, si tu le revois à part, ça reste quand même un peu étriqué comme film. C'est-à-dire que c'est un peu les deux mêmes cascadeurs qui se font buter à chaque fois, et ça se voit un petit peu. Bon, t'as la scénette sympa où il fait revenir les deux mariachi avec lui, là, dont Carlos Gallardo, voilà, en fait, pour foutre le bordel. C'est gentillet, même si dans l'écriture de l'action, c'est quand même pas toujours terrible. C'est-à-dire qu'en fait, il les fait venir... Mais c'est un peu, d'ailleurs, en fait, c'est un peu le souci, je trouve, de... Moi, j'aime pas trop Rodriguez, hein, de manière générale. J'aimerais aimer, parce qu'il y a des idées que je trouve sympas. Par exemple, quand tu vas dans Planète Terror, Rose McGowan avec une jambe à la place de... Enfin, un fusil à la place de la jambe, ce genre de truc. Mais en fait, le problème, c'est que ça dure 2 secondes à chaque fois. Et en fait, il n'y a pas de façon de mettre en scène le truc et de rendre ça un peu exponentiel et kiffant et fun, quoi. C'est juste l'idée, l'utilisation et basta. Et là, c'est un peu le même souci, en fait, parce que tu te fais venir ces deux gars-là, qui ont donc leur mallette eux aussi avec les flingues et qui l'utilisent littéralement comme ça d'ailleurs.
Alors, il y en a un qui a Carlos Gallardo, il a 2 valises qui servent de mitrailleuses, voilà, en fait, et l'autre, c'est un lance-roquette.
Voilà. Et en fait, par exemple, le coup de la lance-roquette, c'est là où c'est décevant, c'est qu'en fait, le mec se fait tirer dessus, donc il balance la roquette en l'air et ça lui retombe sur la gueule. Et tu fais vraiment, c'est censé être 2 super tueurs, 2 machins, etc., etc.
Ouais, les persos se font un peu évacuer bêtement, quoi.
Ouais, comme dans un cartoon, tu vois, ou un truc comme ça, quoi. Et j'imagine que c'est l'idée, hein, tu vois, mais en fait, ils se font évacuer. Bon, évidemment, ils sont pas là dans la scène finale, mais apparemment, il y a une raison. On va en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, et donc, c'est un petit peu dommage parce que c'est un peu toujours la même ruelle, un peu toujours les mêmes baraques, un peu toujours les mêmes trucs. Et voilà, alors il y a quelques phases de cascade sympas, il y a quelques trucs, voilà. Mais c'est vrai que c'est une petite scénette sympa, encore une fois, que tu peux prendre à part. Là, tu peux regarder et tu te dis, oh, c'est rigolo, ça m'a fait mes 3 minutes, tu vois. Mais bon, ça pisse pas super loin. Et effectivement, il y a cette confrontation finale.
Voilà.
Où ça se termine sur un fondu.
Ouais, alors en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la scène se termine avec donc Bucho qui commence à vouloir aller donc buter Salma Hayek. Et en fait, l'autre, Banderas, se sort les 2 flingues de ses mains, commence à tirer. On voit pour le coup que Bucho se fait descendre. Et en fait, il fait un fondu au blanc et il laisse le massacre final en suspens, quoi. Voilà. Alors, Dixit Rodriguez lui-même. C'est parce que il y a eu en fait une vraie scène de gunfight où après ça donc Hayek, Banderas se flinguaient avec les hommes de main restants, dont la femme là, il y a cette homme de main féminine, cette femme de main du coup, qui aurait été tournée, mais donc lui dit sur le commentateur audio qu'en fait la MPAA demandait, le film a pris un NC-17 en première instance devant la MPAA et ils ont demandé beaucoup de coupes et notamment qui était apparemment assez concentré sur cette scène finale, donc il a pris la décision de faire ce massacre en suspens. Alors je pense que bon, dans sa tête t'avais peut-être l'idée de faire un hommage, parce que je crois que c'était il me semble que sur la porte maltaise d'Alfredo Garcia aussi ça se termine sur un massacre en suspens, donc je pense qu'il avait probablement aussi ce genre de référence en se disant ah, ça va faire comme ça quoi, peut-être. Le fait est que ça, c'est quand même un truc qui à mon sens c'était déjà une frustration à l'époque pour moi, même si du coup t'avais la scène avant là, donc dont on parlait, qui avant, qui bon sert de climax quoi, mais ça reste une frustration et ça l'est encore plus maintenant puisque effectivement tu cumules cette espèce de, donc cette révélation tardive, puisque la révélation de la parenté des deux personnages intervient littéralement juste avant et effectivement derrière voilà, t'as pas vraiment de catharsis en fait quoi. C'est-à-dire que le problème c'est qu'effectivement tu passes tout le film à attendre qu'il se retrouve face à face avec le mec, et puis quand il se retrouve face à face bah tu fais une ellipse quoi.
Donc, ouais, et puis surtout de toute façon là, alors bon c'est vrai qu'à l'époque la MPA pouvait être assez violente dans ses coupes en fait, dans ses demandes quoi, dans ses exigences, parce que c'est un fonctionnement très particulier la MPA, c'est pas de la censure officielle à proprement parler, mais ça reste quand même un organisme gouvernemental.
Oui, ils ne font que des suggestions.
Voilà, et ils font des suggestions en disant là c'est un peu trop intense, c'est un peu ci, c'est un peu ça, et c'est au réalisateur et au monteur à la production en tout cas de trouver l'équilibre pour pouvoir sortir sous la bonne classification. Et il y a pas mal de films hein, qui ont été coupés comme ça à cette époque-là. Le même été, il y avait Judge Dredd qui a été aussi coupé de la même manière, quoi. Et quand tu tournes en pellicule, que en fait tes décors c'était il y a 8 mois, que tout ça, etc., etc., c'est un peu difficile de rattraper quand le numérique n'était pas forcément là. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on s'en sort un peu mieux, et surtout, il y a un suivi en fait sur les productions aujourd'hui par rapport aux classifications. C'est-à-dire que en gros, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est le fonctionnement de la MPA, encore une fois, est très opaque. Il y a un documentaire, un excellent documentaire en fait, à voir, mais qui, à mon avis, est un peu daté maintenant par rapport au fonctionnement.
C'était des films Is Not Yet Rated, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, qui est sorti en 2006 et qui est assez intéressant, même si, à mon avis, il est un petit peu daté dans le sens où je pense que le fonctionnement n'est plus tout à fait similaire. Ouais. Dans ce documentaire, on apprend voilà que c'est des familles en fait qui fonctionnent, enfin des mères de famille ou des pères de famille en fait qui donnent leur avis par rapport à ce que leur gamin en fait devrait ou ne devrait pas voir.
Ouais, je pense qu'ils essaient de faire des panels représentatifs un peu comme ce qu'on fait en France, quoi.
C'est, ouais, c'est ça.
La comité de classification en France, c'est différents organismes et puis des représentants de la société civile aussi, je crois.
Donc voilà. Toujours est-il que c'est vrai que en fait, quand tu tournes en péloche et tout ça, ben forcément, en fait, à un moment donné, les pertes elles sont beaucoup plus sèches, quoi. Et sur ça, c'est pas impossible effectivement que ça soit le truc. Après, moi, j'ai tendance à croire aussi quand même que Rodriguez, il aime bien créer sa petite légende de attention. Moi, j'ai fait un truc tellement violent qu'en fait, la MPA pouvait pas le voir et patati patati, donc j'ai coupé, tu vois. Mais bon, ça devait être très violent, hein, tu vois. Et tu te dis, bon, en fait, le reste de sa filmo ne lui donne pas forcément raison. Pas tant sur la violence, parce que c'est vrai qu'il fait des films violents, hein, en soi, c'est-à-dire en tout cas sanglants et ce que tu veux, etc., etc. Mais en termes d'impact réel. Et d'ailleurs, en fait, c'est assez marrant de se dire que, tu vois, la scène dont on parlait, la scène d'ouverture, où il était capable de, et je pense grâce à Navarro, justement, grâce au chef op, d'avoir certains plans assez sympas à la Sin City, j'ai envie de dire, tu vois, si tu veux, c'est-à-dire que, alors, pas en noir et blanc, pas en machin, mais tu vois, cacher le visage de Banderas dans la pénombre, vraiment jouer avec cette idée, etc. Le plan, il le fait plus du tout.
T'as
en
le
fait,
plan si final aussi où c'est le truc où la caméra prend la place de la balle en fait. Quand il raconte quand Cheech Marin pense que le barman s'en est sorti, et Buscemi lui dit ah non, c'est le barman qui a eu le pire, et il se prend une balle dans la tête. Ouais. Et t'as un plan à la Rémy avec la caméra qui prend la place, où la caméra et la balle quoi, il va voilà. Dans la tête du mec quoi.
Et donc en fait, tu sens qu'il faisait un petit peu des petits trucs comme ça, et qu'en fait du coup il a lâché totalement la rampe, ouais, avec le numérique quoi. Donc bon voilà, c'est je sais pas si on a fait le tour. S'il y a quand même, il faut peut-être préciser ça pour les érotomanes, hein,
oui.
Qui a une scène de nu, en sexe.
C'est une scène d'amour. Une scène d'amour, en fait, entre
Banderas et Salma Hayek, dont elle a parlé récemment.
Oui, tout à fait, j'avais noté ça. Alors, elle avait donné une interview en février de cette année, je crois, d'ailleurs, ouais. Où elle a dit que ça avait été très compliqué pour elle de la faire, parce que... Alors, déjà, à la base, elle n'était pas dans le script. Elle avait dit que c'était pas dans le script.
C'est déjà quand même un problème, ouais, hein, de fonctionnement.
Donc, Robert Rodriguez lui a dit qu'il y aurait cette scène-là en arrivant sur le tournage. Donc elle avait hésité un peu, mais elle faisait confiance à Rodriguez. Et donc, alors, Rodriguez lui dit que le jour où ils ont tourné la scène, quasiment toute l'équipe était là parce qu'ils voulaient voir, mais ils ont fait, non, par respect
close
pour
set.
Elle, voilà, c'était close set, c'était juste lui, le chef op et les deux acteurs. Mais qu'apparemment, donc, Dixit Salma Hayek, ça a quand même été très compliqué parce que elle était très gênée, c'était sa première scène de nu, se retrouver nue même devant une petite équipe, ça l'a gênée, elle commençait à tourner, ils arrivaient à tourner 10 secondes et elle partait en pleurant, voilà, donc c'est ce qui explique d'ailleurs au final le montage très elliptique de la scène, en fait, c'est vraiment des gros plans. Alors ça fait un peu téléfilm soft de Cinemax, tu vois, un peu un truc comme ça, quoi. Bon, après, je pense que quand même à l'époque, on était quand même, voilà, ça a marqué beaucoup de jeunes hommes, je pense.
Oui, et puis à tout prendre, en vrai, disons que dans la même époque où il y avait chaque film avait un peu sa scène de cul, ouais. On avait parlé dans Piège en eau trouble, dans l'épisode sur Piège en eau trouble, on disait bah voilà, il faut sa petite scène érotique parce que ça fait partie du cinéma d'action à cause de Basic Instinct, à cause de tout ça. Bah à tout prendre, cette scène elle est un peu plus érotique, très clicheton, hein,
c'est les bougies, c'est les lumières tamisées,
mais
des bougies.
Elle est un peu plus érotique que celle de l'expert, par exemple.
Déjà parce que même si on voilà, il y a une vraie alchimie entre Banderas et Hayek dans le film, quoi. C'est-à-dire que le duo fonctionne bien, quoi. Stallone et Sharon Stone dans l'expert, tu sens qu'ils pouvaient pas se blairer, quoi.
Ah, ils étaient chacun dans leur caravane, là. C'est
anti, non, mais c'est-à-dire que l'expert, tu prends vraiment le truc qui est absolument.
Mais je pense ce truc parce qu'en fait, il y avait tout cette façon de vendre le film autour de la scène de cul.
Non, mais oui, bien sûr. Oui, je me rappelle, oui, tout ça, tout à fait. Non, mais c'est vrai que voilà, bon, mon moi de 13 ans était très était assez moustillé par la scène à l'époque.
On l'a gardé pour la fin parce que si on avait commencé par ça, ça aurait été chaud.
Et puis donc elle avait dit aussi que du coup elle avait amené sa famille à la première, mais au moment où la scène est arrivée, elle leur dit non, venez, on sort là. Voilà. Donc voilà. Mais bon, après voilà.
Ouais, ça c'est le côté un peu mexicain.
Oui,
elle
le dit dans l'interview, hein, que c'était effectivement le côté voilà, famille un peu traditionnelle, et qu'elle était un peu gênée par ça. Bon, le fait est qu'en fait c'est quand même un film qui, il faut le dire, a beaucoup fait pour les carrières respectives de Banderas et de Salma Hayek. Hein,
aux États-Unis, Banderas, il avait quand même une carrière.
En Espagne,
chez Almodovar,
oui,
tout ça. Et effectivement, c'est le premier pas vers la starification parce que il a fait ensuite le Mas de Zorro, etc., etc., quoi. Bon, le 13e guerrier, même ça a pas beaucoup fait pour sa starification,
non.
Malheureusement.
Non,
même
mais
si
voilà,
au moins il a un grand film dans sa carrière.
C'est le film qui lui a vraiment mis le pied à l'étrier aux États-Unis. Et puis Hayek, évidemment, pour le coup, là, c'est son premier gros film de studio. Gros film. Le film coûtait 7 millions de dollars. Alors évidemment, c'est une énorme, c'est un énorme upgrade par rapport à Mariachi, puisqu'on est sur un budget de l'ordre de 1000 fois plus grand, quoi. Même là, ils ont dû optimiser beaucoup de trucs, hein. Notamment, Banderas racontait que sur la fameuse scène où, tu sais, quand il s'échappe de la librairie en flammes et qu'il doit faire le moment où il saute du toit en se retournant pour flinguer les mecs qui arrivent derrière, avec l'après derrière l'explosion, la fameuse, le moment cool guys don't look at explosion, là, qui servait aussi beaucoup pour la promo, ça, je me rappelle. Il expliquait qu'en fait, le mec qui est le régleur de ça, le mec qui activait le câble, en fait, c'était pas du tout son boulot à la base. C'est un mec qui, genre, opérait des machines destinées à transporter des trucs sur les toits, quoi. Et du coup, à la première prise, ils avaient pas du tout répété. Et à la première prise, en fait, le mec a lâché le câble il a trop abaissé le câble et Banderas s'est mangé le mur, en fait, quoi. Il a pas du tout atterri sur le toit. Il s'est mangé vraiment frappé contre le mur. Et donc, il disait, on était quand même un peu obligé de faire des trucs malgré tout, même avec le budget un peu à l'arrache, quoi. Ça restait une production, voilà. Bon, je pense que le film, malgré le côté étriqué en termes visuels, et encore une fois, je pense que c'est l'apport de Guillermo Navarro, voilà, ça se tient quand même encore, je trouve, beaucoup mieux. Il y a une belle lumière, la lumière se tient, c'est beau. Tu sens bien le côté, la chaleur qui écrase et tout ça, voilà, le côté mexicain ressort vraiment bien, quoi, parce qu'ils ont vraiment tourné au Mexique en plus. Et moi je me posais la question d'ailleurs, outre l'apport de Guillermo Navarro, si le côté, la tenue technique du film n'était pas aussi lié à deux facteurs. Déjà, la première, c'est qu'il devait quand même, je pense qu'il, Rodriguez voyait bien que c'était quand même son shot, quoi, tu vois, c'est vraiment son opportunité de passer dans la cour des grands, d'une certaine façon. Donc je ne sais pas comment était sur le tournage, parce que bon, on a vu avec le fameux making of avec Full Tilt Boogie que dès le film d'après, c'était voilà, vas-y, je fais de la guitare sur le plateau, etc., etc.
Non, ça, c'est, je pense qu'il cultive son côté je suis un réalisateur à la cool qui se prend pas la tête, tu vois. Mais après, faire un film en pellicule, et c'est d'ailleurs, c'est lui qui le dit, hein, c'est même pas, c'est à dire qu'en fait ça le rendait dingue, en fait, au bout d'un moment. C'est à dire que c'est, en fait, je pense que c'est une question d'attente, c'est une question vraiment de passer son temps à attendre au lieu de faire, parce que tout le principe de Rodriguez, et c'est là où il y a deux écoles qui s'opposent, on va dire, dans l'appréciation de son travail, c'est, il y a le côté que bon, je fais partie, hein, qui considère que c'est un peu un branleur, quoi. Forcément sur Desperado, mais et il y a le côté, mais comment est-ce que vous pouvez dire ça puisqu'il fait tout? Et le problème, c'est que c'est pas parce qu'il fait tout qu'il fait ça bien. Et ensuite, le truc, c'est que l'idée de faire tout, c'est pas forcément de faire tout pour, comment dire, c'est le côté un peu hyperactif, entre guillemets. C'est-à-dire, bon, maintenant, il faut que ça soit fait, et je shoot, et voilà. Pour lui, il y a cette idée que, comment dire, je me rappelle d'une interview à l'époque de Predators, en fait, quand il a produit Predators, qui est une catastrophe ambulante, quoi, où il avait, en fait, des accrochages avec Nimrod Antal sur la valeur des plans. Et ce que disait Rodriguez, alors, est-ce que c'est une manière de rester, encore une fois, le mec cool, etc., etc., je sais pas. Mais toujours est-il que ça démontre quand même, et ça se ressent dans son travail. Il disait, de toute façon, à la fin, on arrêtait de se prendre la tête parce que, en fait, c'est pas grave de se prendre la tête pour un plan. Et là, tu te dis, mais en fait, tout le cinéma, c'est censé être ça, normalement, non? C'est pas se prendre la tête pour un plan à chaque fois, un plan à la fois, tu vois. Et le truc, c'est que, pour en revenir à Desperado, je pense qu'effectivement, t'as raison, il se prenait un petit peu la tête à ce moment-là, malgré tout. Il essayait d'optimiser ce qu'il avait sous la main. Alors, je trouve qu'il le fait un peu trop avec des raccords dans l'axe, un peu trop avec des gros plans. Et malheureusement, des fois, alors, la scène dont tu parles, celle où il saute du toit, pour le coup, elle est plutôt sympa. Ça va, tu vois, le saut, tu le vois bien, la cascade, tu la vois bien, c'est plutôt cool, quoi. Mais t'as pas mal de moments.
Multiplier les angles aussi. Sur
voilà. Mais c'est ce qu'il fait de façon sur toutes les scènes d'action, hein, dans le film. Mais là, c'est plutôt efficace. Et surtout, en fait, en gros, le problème, c'est que quand bien même il y aurait plus de valeur de plan, c'est vrai que comme c'est lui qui monte, bon, bah, je pense qu'en fait on est vraiment principalement dans les raccords dans l'axe en permanence.
Je crois qu'il avait un autre monteur avec lui sur ce film, il me semble.
En tout cas, c'est lui qui est
crédité. D'accord, okay, ouais. Et alors, l'autre facteur dont je me demande s'il a joué, c'est que il n'y a pas encore les Weinstein sur ce film. C'est-à-dire qu'il va commencer à bosser avec eux derrière avec From Dusk Till Dawn, mais là c'est purement une production Columbia, en fait, à l'époque.
Alors, il se trouve que, en fait, c'est assez marrant aussi, ça, c'est qu'il y a trois réalisateurs, apparemment, chez Weinstein, qui avaient plus ou moins leur final cut. C'est-à-dire, c'était Tarantino, Rodriguez et Kevin Smith. c'est les trois réalisateurs qui disent non, nous, on nous a jamais fait chier. On nous a jamais, demandé de couper les trucs. Et ça se voit aussi. C'est-à-dire qu'en quoi qu'il arrive, ça se voit. Donc je sais pas si, en fait, c'est vraiment ça le fond du problème.
Ce que je veux dire, c'est le fait d'avoir, justement, peut-être sur ce film-là, des producteurs derrière qui. Peut-être le pousser un peu au cul plus que ne pouvait le faire les Weinstein. Est-ce que ça a joué? C'est une question que je me pose. J'ai pas la réponse.
Moi, je pense tout simplement que c'est un mec qui voulait faire du cinéma et qui, est rentré par là. Il a, je dirais que le vrai fond du problème chez Desperado, c'est qu'il a pas grand-chose à raconter. Voilà, que s'il voulait juste faire un film cool, tu vois, ouvrir les guillemets, fermer les guillemets, et que jusqu'à un certain degré, c'est ce que c'est. C'est-à-dire sur un film cool, tu vois, avec, à mon sens, plein de problèmes qui appellent, enfin qui montrent déjà en fait les limites du cinéma de Rodriguez.
C'est les germes de ce qui va vraiment être problématique ensuite. Quoi.
Mais reste encore peut-être ce qu'il a fait de mieux, quoi.
Ouais, bah surtout si tu le mets en perspective avec la suite derrière, parce que je sais qu'on a dit qu'on en parlait pas, mais moi je l'ai revu et là c'est pas possible.
C'est le moment où tu te dis, enfin moi je sais que je me suis dit, ah oui, là il a vraiment lâché la rampe, ça, il s'en a plus rien à foutre, quoi. Et d'ailleurs, pour moi, voir ça, voir Spy Kids 3D, voir Sin City, c'est littéralement les mêmes films en fait. C'est-à-dire, et surtout, encore une fois, Spy Kids 3D et Sin City, au-delà de ce que ça raconte, la fabrication et la volonté de faire, c'est la même. Ouais. Et ça me dépasse parce que, en fait, je me dis, mais quand tu adaptes Spy Kids, c'est ton petit truc à toi, bon pourquoi pas, tu vois. Mais quand tu adaptes Sin City, que t'es censé être un grand fan, etc., etc., c'est quand même dommage de pas se sortir un peu les doigts, quoi.
Ouais, et puis même sur le troisième, c'est-à-dire que le troisième, tu vois, qui clairement, jusque dans le titre, c'est qui fait référence à Léon, où tu sens qu'il envisage vraiment ça comme son espèce de truc épique et tout, et qu'en fait, dans le film, c'est juste un embrouillamini de plotline qui vont nulle part, où le personnage de Banderas, c'est limite un perso secondaire, que visuellement, c'est dégueulasse, hein. Moi, je me rappelais pas, t'avais des plans à la DV, là, mais qui sont absolument atroces, notamment le moment où, t'as un moment où le Johnny Depp va dans les cuisines pour buter le cuisinier, et c'est vraiment filmé à la DV, il n'y a pas de lumière, c'est plat, c'est vraiment dégueulasse.
Enfin, c'est de l'HD, je crois. Hein.
C'est de l'HD ?
C'était son premier tournage en numérique.
D'accord, ouais.
En fait, c'était même à ses yeux un film expérimental sur ce point.
De toute façon, tu vois, moi, le truc parlant, c'est que tu vois le générique, le générique du film, son crédit en tant que. Donc, parce qu'il est à la fois compositeur, directeur photo, monteur, et c'est shot. Chopped and scored.
Ouais.
Et je pense qu'effectivement, notamment le mot chopped, il est vraiment parce que c'est vraiment wachoir, quoi.
Ouais, c'est cuté, il optimise mal, mais il optimise en fait avec ce qu'il a.
De toute façon, c'est pas compliqué. Tu vois, il refait le coup des mariachi qui reviennent et tout, et c'est même pas fun comme peut l'être quand il vient chercher les demeures. Déjà, il y a Enrique Iglesias, donc tu crois vraiment pas trop aux mariachi badass, quoi. Ouais. Mais même, c'est pas fun, quoi. La scène où les mariachi débarquent dans le Desperado, elle est fun. Celle-là, elle est pas fun du tout, quoi.
En fait, je pense qu'à la fin, et c'est comme ça qu'on va peut-être terminer sur cet épisode, à moins que t'aies quelque chose à rajouter.
Ouais, je voulais juste placer une petite truc sur la scène d'intro, la scène générique, que moi j'aime beaucoup.
La chanson ?
La chanson, ouais. Qui est jouée par Banderas. Banderas a vraiment fait ses parties de guitare et le chant dans le truc, et je trouve que la scène est plutôt fun, en fait. Déjà, parce que voilà, on est dans cette logique de pré-générique, générique chanté et tout, c'est toujours un truc que j'aime bien. Moi j'adore James Bond, donc. Ça me renvoie un peu à ça, donc c'est vraiment un genre de mécanique narrative que j'aime beaucoup. Et puis là encore, je trouve que dans cette scène-là, c'est assez marrant, quoi. Il y a des petits moments assez fun visuellement, notamment t'as le moment où il monte sur le bar pour aller, où il voit qu'il y a une nana qui est en train de se faire emmerder par un mec, donc il monte sur le bar pour aller.
Emmerder, c'est gentil.
Oui,
le mec met la gorge.
Et il va pour lui mettre un coup de latte avec le manche, et t'as le moment où il monte sur le bar, et le bar a une espèce de truc avec des mosaïques lumineuses derrière, et t'as un petit effet où Banderas se fait détourer par le bar. Je pense qu'il y avait encore, c'est ça que moi je revois le film. Et je me dis, il y avait quand même encore des fois dans ce film-là une recherche de plan, une envie de faire des trucs. Il avait déjà ses limites, mais il y a une vraie envie de trouver des trucs fun, des trucs visuellement marrants, de raccorder. Tu vois, y faire venir, ils ont carrément retourné la scène de fin de Desperado, de El Mariachi, avec. Il a repris l'acteur qui jouait Moco, là, Peter Marquardt, qui est décédé depuis d'ailleurs, et l'actrice du film, et il a remis Banderas dedans pour montrer qu'il se faisait shooter la main et tout. Bon, un truc qui était complètement passé au-dessus de la tête à l'époque, mais voilà. Donc il y avait vraiment une envie de faire des trucs, et moi, c'est ça qui me rend toujours le film sympathique, même s'il y a une petite pointe d'amertume, parce que tu sens que le mec a pas vraiment concrétisé derrière, c'est-à-dire qu'il a doublé sur ses défauts plutôt que d'essayer de les corriger. Mais voilà, moi je trouve que le film passe encore bien.
C'est d'ailleurs qu'à l'époque, en fait, ça valait quand même le coup de se prendre la tête pour un plan, quoi.
Voilà, c'est ça.
Bon. Merci Mathieu.
Merci Stéphane.
Merci aux auditeurs, merci Alain, merci à la technique. Merci à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, ceux qui typent. Pour nous soutenir, c'est tipeee.com, 3e, et le mot-clé c'est Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur les agrégateurs de podcasts habituels, hein, SoundCloud, Deezer, je sais pas si Deezer ça marche, si ça marche bien, il me fait si on a réparé le problème, Spotify, tout le tralala, les réseaux sociaux habituels, Instagram, Facebook, Twitter, et puis moi je vous dis à la prochaine avec, j'espère, un meilleur film quand même.
Ciao!
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.